L'incendie de Notre-Dame de Paris n'a pas fini de nous révéler ses secrets.
En janvier dernier, le journal La Dépêche a décerné à Éric Crubezy le prix du Toulousain de l'année 2024 pour ses travaux sur deux sarcophages retrouvés sous Notre-Dame de Paris suite à son incendie. Cet heureux lauréat est l'invité de Radio Présence. Bonjour Éric Crubezy.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Toulouse et au Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse. Vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, notamment sur les rites funéraires, un sujet qui vous passionne, et dont le dernier, Le Cavalier de Notre-Dame chez Odile Jacob. De quelle manière, Éric Crubezy, avez-vous été sollicité pour travailler sur ces deux sarcophages de Notre-Dame de Paris ?
Alors, à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, a fait des fouilles dans la cathédrale et à la croisée du transept, donc, c'est-à-dire au moment où le grand axe de la cathédrale coupe l'axe transversal, hein, le grand axe étant le corps du Christ et l'axe transversal ses bras, deux sarcophages en plomb ont été découverts. Et ici à Toulouse, avec le professeur Norbert Telmont, qui dirige le service de médecine légale, on avait eu une expertise dans ce domaine parce que nous avions étudié quelques années avant, toujours avec l'INRAP et Rosenkelter, un sarcophage en plomb dit de Louise de Quingou, qui avait eu une grande, je dirais, qui avait été trouvée à Rennes et qui a eu une grande notoriété internationale. Et on venait de publier quelques mois auparavant la totalité des études concernant ce sarcophage. Ce qui fait que ce sarcophage, ces deux sarcophages, nous ont été en quelque sorte envoyés. Et je dirais que pour...
Et pourquoi en quelque sorte ? Parce que c'est vrai qu'ils vous ont été envoyés
voilà,
par
donc,
transporteur spécial
oui,
jusqu'à
Oui, donc ils nous ont été envoyés, ben, je dirais pour plusieurs raisons. La première raison, ben, c'est qu'à Toulouse, il y avait, je dirais, et le potentiel humain, hein, ce qui est toujours le plus important avec le service de médecine légale. Ensuite, on avait un potentiel scientifique, c'est-à-dire que tout ça a été réalisé en médecine légale au CHU. Et donc, quand vous êtes dans un CHU, vous avez accès immédiatement, non seulement à plusieurs dizaines de collègues compétents dans tous les domaines, mais aussi à des plateaux techniques, oui. Aussi bien en imagerie qu'en histologie, c'est-à-dire l'étude des cellules, etc. Donc ça, c'était très important. Et en plus, avec Norbert Telmont, nous étions très attachés au fait qu'il fallait que ces sarcophages, que les sujets qui étaient dans ces sarcophages soient traités finalement comme des morts contemporains. Parce qu'il y avait, si vous voulez, il y a toujours un problème qui se pose, d'ailleurs, c'est de savoir quelle est la limite entre l'objet scientifique et finalement les restes de celui qui a vécu. Et il y a une limite, en fait, sur laquelle j'avais travaillé anciennement. Cette limite, c'est un peu le nom. C'est-à-dire, quand on sait qui est la personne, ça change à peu près tout.
Ça peut fausser aussi un petit peu les recherches ?
Alors, ça peut... Oui et non, ça peut les aider, si
oui,
vous voulez.
Ou les orienter, peut-être.
Les orienter. En fait, là, il y avait deux sarcophages. Un qui était connu, qui était parce qu'il y avait son nom dessus. Deux cercueils en plomb. Il y en a un qui était connu, il y avait son nom, il y avait une plaque, qui était celui du chanoine Antoine de la Porte, qui était un des grands donateurs de Notre-Dame. Donc, s'il ne posait pas de problème, en tout cas, on savait qui c'était. D'accord ? Oui. Et finalement, l'étude devait simplement s'orienter pour déterminer si celui qui était à l'intérieur était bien celui dont le nom était marqué. Ce qui était relativement facile, parce qu'il était décédé à un âge de plus de 80 ans, donc il avait tous les signes de vieillissement, etc.
Et donc cette personne était un des chanoines de Notre-Dame ?
Un des chanoines de Notre-Dame qui a beaucoup donné au roi Louis XIV pour faciliter les travaux qui ont eu lieu à Notre-Dame, puisqu'il y avait ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII. Louis XIII, c'est Louis XIII qui a consacré en fait Notre-Dame. Il avait fait un vœu que s'il avait un enfant, donc qui était Louis XIV, il ferait un vœu à Notre-Dame. Et donc, il a consacré un hôtel à Notre-Dame. Et je dirais, et en chose peut-être plus intéressante pour vos auditeurs aussi, il a décrété que le 15 août serait jour férié. En fait, nous en bénéficions toujours. Si vous voulez, il y a peu de personnes qui savent que quand c'est le 15 août et jour férié, beaucoup de gens savent, et je suis sûr parmi vos auditeurs, qu'il s'agit effectivement un jour en l'honneur de la Vierge Marie, mais bien peu sûr. Savent qu'il est férié en raison du vœu de Louis XIII.
C'est vrai.
Et à côté de ça, il y avait un squelette qui était inconnu, enfin un cercueil inconnu, pas de plaque, pas de nom. Et donc, mais on pouvait tout de même espérer, vu l'emplacement qui était un emplacement quand même très particulier, il y avait peu de sujets, on était à la croisée du transept, on pouvait espérer un jour mettre un nom dessus. Et donc,
c'était quand même une place de choix d'être enterré comme ça à la croisée du transept.
Alors, justement, mon ouvrage explique, je dirais, ces éléments, parce que c'est... je dirais que c'est ce qu'on croyait au départ. En fait, les choses sont plus subtiles, si vous voulez. Ce qui est intéressant, et je dirais que c'est l'enquête qui l'a montré, alors c'était des éléments qui étaient connus par des historiens, mais finalement dans un petit cercle, et qui n'avaient jamais eu tellement d'applications, je dirais, pratiques. C'était de comprendre qu'est-ce que c'était Notre-Dame au XVIe siècle et comment ça fonctionnait. Et donc ça explique à ce moment-là, si vous voulez, pourquoi on retrouve ces tombes à la croisée du transept. En fait, Notre-Dame au XVIe siècle était une des seigneuries les plus puissantes du royaume, sinon d'Europe, et une des plus riches, d'accord, puisque il faut penser qu'il y avait beaucoup de possessions foncières qui dépendaient de Notre-Dame. Mais pour donner une idée à vos auditeurs, quand on visite Notre-Dame maintenant, d'ailleurs c'est... Il y a quelqu'un qui m'a dit, une journaliste qui m'a dit, depuis que j'ai lu votre ouvrage, je ne peux plus visiter Notre-Dame de la même façon. Si vous voulez. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Et en fait, il faut penser que chaque jour à Notre-Dame, en dehors des grands messes, si vous voulez, et des matines, etc., qui se passaient dans le chœur, dans les chapelles latérales, il y avait par jour 110 messes. Et que tout était... Donc c'était ce qu'on appelait des messes basses, c'est-à-dire qu'on ne chantait pas pour ne pas déranger les gens autour, puis en même temps, elles avaient toutes lieu en même temps, presque. Mais toutes ces messes étaient des messes en faveur des morts qui étaient enterrés là, et tout était payante. Donc il y avait des revenus qui étaient énormes. Et ces revenus, en fait, étaient... il y avait deux personnalités qui dirigeaient Notre-Dame. D'une part, l'évêque, qui avait été nommé par le roi, parce que le roi de France s'était séparé de l'Église de Rome et il ne reconnaissait plus qu'à Rome un pouvoir spirituel. Et donc, il fallait que... c'est lui qui nommait l'évêque, mais en fait, en gros, si vous voulez, cette séparation avec le pouvoir spirituel, c'était pour pouvoir garder la mainmise sur l'économie. Donc, et ensuite, il y avait un doyen qui dirigeait, qui faisait partie des 51 chanoines.
Donc, les affaires spirituelles.
Alors, ces 51 chanoines étaient nommés par le pape. Donc, on voit déjà qu'il y avait une séparation, si vous voulez, entre le roi et le pape. Donc, il y avait toute une série là. Et alors, eux, ils étaient chargés du fonctionnement de la cathédrale et des chants, puisque c'était des chanoines, c'était pour les chants. Mais, en fait, c'était des postes que certains occupaient, qui pouvaient être très honorifiques, mais aussi, je dirais, qui impliquaient de s'investir dans Notre-Dame. Ce fut le cas du chanoine Antoine de Laporte, dont on sait qu'il a passé sa vie à Notre-Dame, etc. Mais il y en a beaucoup de ces chanoines qui avaient bien d'autres occupations et qui pouvaient être membres du Parlement, c'est-à-dire la Grande Cour de Justice, qui pouvaient être médecins, etc.
Alors ce deuxième sarcophage, dites-nous Éric Ruesi, à qui appartient-il ?
Selon toute vraisemblance, si vous voulez, après, il s'agit du poète Joachim du Bellay, d'accord ? Donc ça, c'est à la suite, effectivement, d'une enquête qui a permis, qui s'est déroulée en plusieurs temps. Premièrement, son identification, c'est-à-dire qui était ce squelette, à quoi il ressemblait, c'est-à-dire son identification biologique. Là, on a eu, je dirais, si ça avait été un personnage aux alentours, je dirais, de plus de 50 ans, l'affaire était perdue.
Pourquoi ?
Parce que, d'une part, c'est difficile de déterminer des âges précis après 40 ans chez l'adulte. Vous savez, d'une personne à l'autre, on a des vieillissements qui sont différents. Et alors, pour des périodes anciennes, c'est peut-être... encore plus marqué.
Donc là, ça tombait bien parce que...
Il est décédé aux alentours de 35 ans.
C'est ça.
C'est ça. Et ensuite, parce qu'on inhumait dans la cathédrale, théoriquement, que les évêques et les chanoines. Et le chapitre, donc celui qui dirigeait les chanoines, était très, très, très sourcilleux là-dessus. On a des procès. Et donc, ce qui fait que la plupart de ces chanoines décédaient, je dirais, assez tardivement, pour vous donner une idée... Il y a à peu près 2% des sujets qui sont inhumés à Notre-Dame à cette époque-là, qui sont décédés entre 20 et 40 ans.
Ah oui.
Donc, ce qui fait que ça restreignait déjà considérablement le champ.
Et Joachim du Bellay était-il un chanoine de Notre-Dame ?
Alors, c'est ça toute l'histoire, et si vous voulez, c'est qu'il avait été chanoine, mais il ne l'était plus. D'accord ? Et il y a toute cette histoire pour savoir justement, pourquoi a-t-il pu être inhumé à Notre-Dame ? Et ensuite, où a-t-il été inhumé ? En fait, Joachim du Bellay, donc le poète, qui est surtout connu d'ailleurs pour un seul de ses poèmes aujourd'hui, Heureux qui comme Ulysse, qui est le sonnet 31 des regrets, faisait partie, lui n'était pas d'une, je dirais, d'une branche fameuse, mais en tout cas il faisait partie d'une famille qui faisait partie du premier cercle royal et du premier cercle papal, puisque un de ses oncles a été, quand il décède, évêque de Notre-Dame, et son autre oncle, en fait un oncle à la mode de Bretagne, c'est-à-dire un cousin germain de son père, mais avec qui il était très 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 lié, était second de l'Église catholique, puisqu'il était doyen du Sacré Collège, ceux qui sont en charge de nommer le pape. Et c'est en raison, d'ailleurs le chapitre le met, si vous voulez, c'est en raison de ses filiations et de la demande de sa famille qu'il va être inhumé à Notre-Dame, parce qu'il avait été aussi élevé à Notre-Dame. Par un, il était devenu très tôt orphelin, et orphelin, il avait été élevé par un de ses autres oncles, qui était archidiacre de Notre-Dame, chanoine, etc. Et donc, la famille demande qu'il soit inhumé près de lui.
Mmh. Et en étudiant sa dépouille, vous avez remarqué qu'en fait, ce Joachim du Bellay est mort d'une maladie, d'une tuberculose.
Alors, oui, c'est grâce à ça aussi qu'on a pu, et l'identifier, et ensuite revoir, c'est peut-être moi, ce qui, à titre personnel, hein, qui m'a le plus passionné, c'est-à-dire de revoir et sa biographie, comment il avait vécu cette maladie, et ensuite comment finalement ses biographes, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés à sa vie, en ont discuté depuis le milieu du 19e siècle. En fait, il attrape très jeune une tuberculose pulmonaire, aux alentours de 20 ans. La description de la maladie est en fait très très classique, de l'ère pré-antibiotique, hein, c'est-à-dire qu'il faut penser que la tuberculose est quelque chose qui a tué jusqu'en les années 1940, voire 1945-50, avant qu'on ait une généralisation des antibiotiques. Et ce qu'on montre là, c'est que le déroulement de la tuberculose de Joachim du Bellay se calque tout à fait sur une tuberculose du 19e siècle, par exemple. Et en fait, il va faire une méningite chronique tuberculeuse, c'est-à-dire qu'il va avoir une atteinte au niveau du cerveau qui va permettre son identification.
Parce qu'en fait, vous avez trouvé des traces,
oui,
qui racontaient
des traces, on trouve des traces au niveau, si vous voulez, du crâne, qui montre qu'il a cette méningite. Et on trouve aussi des traces sur sa colonne vertébrale qui montre qu'il a une tuberculose osseuse.
Et des écrits aussi qui corroborent.
Alors, tout à fait. Et donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'on avait ça, il fallait regarder dans ces, alors, plusieurs types de textes. D'une part, ses poèmes. Hein. Et là, par exemple, La complainte du désespéré de Joachim du Bellay est un des plus beaux poèmes qu'on puisse avoir sur la douleur qui le ronge, si vous voulez, et dans lequel il va donner tous les signes de sa méningite chronique, c'est-à-dire la tempête qui grouille dans sa tête, ne plus pouvoir entendre les oiseaux, etc., les insomnies terribles, ne plus pouvoir dormir et autres. Donc ça, il va bien en parler. Et ensuite, à la fin de sa vie, il va écrire ce qu'on appelle une élégie, c'est-à-dire vous retracez un peu votre vie, mais il va un peu transformer ce poème en finalement une indication sur sa vie. Et il va donner les différentes étapes de sa maladie à un de ses amis. Et donc on a ces documents, et ensuite on a les documents de ses contemporains, et notamment ce que j'ai retrouvé personnellement, qui sont les documents de son autopsie, parce qu'il a été autopsié certainement parce qu'il était dans le cercle royal. 6 mois avant lui, le roi décède, Henri II, au cours d'un tournoi. Il souffre pendant 10 jours atrocement parce qu'il a reçu une pointe de lance dans l'œil avec un problème justement cérébral après.
Ah oui.
Et 6 mois plus tard, les mêmes certainement qui ont autopsié le roi vont autopsier Joachim du Bellay, puisqu'ils vivaient dans ce qu'on appelle le cloître de Notre-Dame, qui est en fait non pas un cloître au sens où on l'entend aujourd'hui, mais un quartier réservé. Et il va être autopsié. Donc on a des rapports indirects sur son autopsie, et ensuite on a des rapports indirects sur les circonstances de sa mort, et d'autres historiens bien informés à cette époque-là qui donnent son état, et on voit bien qu'il était grabataire. Hein. Et sur les
donc finalement,
mois.
Avec tous ces faisceaux d'indices, on est sûr, on peut dire à 100% que c'est effectivement Joachim du Bellay qui est enterré dans le transept de Notre-Dame.
Je dirais qu'on pourrait le dire à 100%. Alors la question qui se pose, c'est sur quels critères se baser, si vous voulez. Donc si on se base, par exemple, aujourd'hui, il y a des critères qui sont définis par Interpol, la police scientifique, et qui dit si on n'a pas l'ADN de la brosse à dents de celui qui est là, plus l'ADN de son squelette, on ne peut jamais être sûr à 100%. On ne peut être que dans un élément qui soit très probable, si vous voulez. Mais je l'écris dans le livre, l'ADN de sa brosse à dents est une curiosité, une aberration archéologique ou une curiosité poétique.
C'est vrai. Donc, j'en profite pour redonner le titre de votre ouvrage, Le Cavalier de Notre-Dame, qui est paru le 22 janvier dernier. Il s'inspire de tout votre travail sur les sarcophages de Notre-Dame de Paris, un livre à découvrir chez
Odile Jacob.
Merci beaucoup, Éric Trubézy, d'être venu ce matin nous raconter ce travail de recherche.
Merci à vous, et puis bonne journée, bonne semaine.
Merci.